Nous sommes des révolutionnaires.
Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.
Noël Isidore, Thomas Sankara. Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Le gouvernement est là pour servir. Et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie. Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Noël Isidore, Thomas Sankara.
Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qu'il met au départ, elle tentera, malgré les pièges qu'on lui brandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.
Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire, le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, on doit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seul on peut le définir. Les puissants paniquent, complotent, il faut le retenir. Sankara se pose et ose inventer l'avenir.
Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.
Combattant, on le chantera.
Président Thomas Sankara, Burkina Faso, digne représentant intègre du Faso. Résident actuellement au cimetière, révolutionnaire abattu par un faux frère. C'est à Dagnouin que reposent ses os, aussi blanchis que ceux de Norbert Zongo. Ville impérialiste, triste, équilibriste, tacticien, politique, assassinat, méthodique. C'est le vieux nègre et la médaille. Chez les vieux pères, c'est la pagaille. Ils ne savent plus quoi dire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour les citoyens que nous sommes. Mais où en sommes-nous? Car on nous somme de consommer et on nous somme d'accélérer. Comment nous sommes de m'exécuter? Les bêtes de somme que nous sommes se confondent à la tombe de misérables. Et les cloches sonnent pour la liberté. Et les cloches sonnent pour la dignité. Et les cloches sonnent.
Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.
Combattant, on le chantera.
Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte.
La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons.
On accueille Bruno Jaffré sur l'antenne au téléphone depuis Paris. Bonjour.
Bonjour, oui.
Bonjour. Alors, vous avez écrit plusieurs livres sur le Burkina Faso, un pays que vous connaissez bien, pour y avoir été régulièrement depuis 1983. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de livres, hein, la biographie de Thomas Sankara, La Patrie ou la Mort, publiée en 97 et rééditée assez récemment en 2007 à l'Harmattan, et Les années Sankara, de la révolution à la rectification, là aussi publié deux fois et toujours à l'Harmattan en 89 et en 97. Voilà, pour entamer, on va partir tout de suite sur la vie de Thomas Sankara, où il est né et qu'est-ce qui l'amène à devenir le président du Faso en 83.
Alors, ben, Sankara est né à Yako, dans une ville au nord de Ouagadougou. Et disons que ce qui est intéressant, c'est ses parents. Donc, il a vécu une enfance plus ou moins privilégiée dans la mesure où il a pu aller à l'école et que à ce moment-là, beaucoup d'enfants n'y allaient pas. Donc, son papa est d'origine musulmane, mais il a fait la guerre coloniale en France, donc il s'est converti à la religion catholique. Et il est sorti de l'armée comme infirmier. Et sa maman est d'une famille simple, on va dire, de l'ethnie Mossi. Et donc le nom Sankara est un nom d'une ethnie métisse Mossi Peul. C'est assez intéressant parce qu'en fait il s'appelait pas Sankara au début de sa vie, il s'appelait Ouedraogo. Mais c'est aussi qu'il est donc au centre de cultures qui sont relativement différentes, puisque les Peuls sont des éleveurs de vaches et des nomades, enfin à l'origine, et les Mossis est une ethnie très centralisée, très avec un empereur et bon, une ethnie très très centralisée quoi. Donc il passe une enfance sous la colonisation, donc les premiers éléments biographiques écrits par Célène Andrea Mirado font état d'anecdotes où il semble avoir quelques événements qui lui font prendre conscience de ce que c'est que la colonisation. Ensuite, donc il est enfant de cœur, ce qui est important aussi de savoir qu'il était très croyant. Il était destiné au séminaire, mais il étonne tout le monde quand finalement il refuse d'aller au séminaire, il préfère le collège. Il se retrouve donc à Bobo-Dioulasso. Il fait donc son collège à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du pays. Bon, on va passer un peu, et en fait il se destinait à la médecine et se retrouve au PMK, Prytanée Militaire du Kadougou, qui est en fait l'école qui forme les jeunes officiers. L'armée à cette époque-là était uniquement formée d'anciens sous-officiers, on va dire, de l'armée coloniale, et cette école a vocation à former une nouvelle génération de militaires. Donc il rentre dans cette école donc en seconde, il y fait 3 ans, et même s'il avait probablement eu des éléments de conscience politique précédemment, il a parmi ses enseignants un monsieur qui s'appelle Adama Touré, qui est membre actif du Parti africain de l'indépendance, qui est un parti on va dire marxiste, hein, qui s'est créé un peu avant l'indépendance dans beaucoup de pays africains, et qui donc l'initie avec d'autres militaires à ce que c'est que l'impérialisme, pour simplifier, et à des idées de gauche et d'extrême gauche. Voilà, ensuite, à l'issue de ces 3 ans, il va à Madagascar. On est dans les années 69, je pense, j'ai plus les dates exactes, et il y passe 3 ans, donc dans une école interafricaine de formation des officiers, dirigée par un Français, mais dans une école où un militaire français, qui est le général Vidal, mais c'est une école interafricaine, et dans cette école, outre bien sûr tous les cours qui concernent l'armée, l'entraînement physique, etc., le sport, il y a des cours de sociologie, d'économie du développement. Et bon, par exemple, il crée un journal, il s'initie à la photo, etc. Donc c'est quand même des formations assez généralistes. Et il vit là-bas les premiers événements de la révolution malgache qui renversera le premier président mis en place par la France, pour encore simplifier rapidement. Et ce sont les militaires liés avec un certain nombre d'organisations et de civils malgaches qui mène la danse. Et donc il y a parmi ses enseignants aussi des gens, que ce soit des Français ou des Malgaches, des gens qui sont influencés par le marxisme, etc. Donc ça a dû aussi l'influencer. Et il décide, donc il vit un peu les événements, et surtout ce qui est intéressant, c'est dans cette révolution malgache, c'est la place importante que va y jouer l'armée. Et il décide, alors je sais toujours pas si c'est lui qui l'a décidé ou si on l'a forcé, mais le résultat est le même. Le fait est qu'il reste un an. Je pense plutôt qu'il a été volontaire, parce que ça correspond probablement à son esprit curieux. Il passe un an donc dans la brousse malgache, avec des allers-retours dans la capitale, où il est au milieu des paysans, l'armée étant ayant un rôle d'entraînement du développement d'introduction de nouvelles techniques, etc., d'amélioration de la production. Et il rencontre aussi là-bas, il s'inscrit, semble-t-il, à des cours d'économie à l'université, et il rencontre un ami malien qui va faire une thèse d'économie et quelques enseignants français aussi qui feront une carrière par la suite. Donc ce qui est intéressant déjà dans... Après il va rentrer, mais ce qui est intéressant de conclure, c'est d'abord une expérience assez longue dans un autre pays avec une révolution où les militaires y jouent une place importante, mais aussi son esprit curieux qui fait que il s'intéresse à beaucoup de choses et largement en dehors de ce qu'on imagine ce à quoi s'intéresse un militaire, que ce soit l'économie, la vie dans les pays, dans la campagne, l'agriculture, le développement, et semble-t-il il y avait même l'armée organisait des projections de cinéma dans les campagnes malgaches à cette époque-là. Voilà un peu pour
c'est le moment un peu fondateur, le moment de Madagascar, de son engagement social et de son idée de l'armée comme vecteur de développement.
C'est un peu ce que je pense. Évidemment, c'est un peu ce que je pense. Il faut souligner aussi une formation classique importante. Hein, une formation classique, je veux dire, au collège française, ce sont des gens qui ont des références où le français était assez important dans la formation des jeunes, donc ils ont des références, y compris de latin, que l'on retrouve parfois dans des mots que nous-mêmes on a parfois oubliés, qu'on retrouve dans des mots, dans des discours, quoi, des mots qu'on n'emploie plus beaucoup, sauf les gens qui sont férus de littérature. Donc oui, une ouverture au monde. Évidemment, à ce moment-là, Madagascar est moins pauvre que le Burkina Faso, donc il y a une certaine fascination pour ce qu'ils voient, sur le travail. J'ai connu Madagascar après, mais une certaine fascination probablement du travail des paysans, de toutes les rizières en escalier, enfin tout un travail qui résulte d'une culture très ancienne qui a dû beaucoup l'intéresser. Hein.
Et puis Madagascar, c'est aussi l'occasion de ne pas avoir seulement une idée théorique de la révolution, mais de voir ce dont est capable un peuple uni qui descend dans la rue. Il y a quelque chose de concret.
C'est pour ça qu'il faut souligner qu'il a vécu cette période avec des militaires malgaches, hein, donc qui étaient ses amis. J'en ai rencontré quelques-uns. Et aussi, avec des économistes avec qui il discutait régulièrement quand il passait à Ouagadougou.
Alors on est début 70 là il rentre en Haute-Volta.
En 72 il rentre en Haute-Volta, hein,
c'est ça. Et ouais. Il va faire son bonhomme de chemin parce que il est assez vite connu.
Ouais. Alors bon, ça c'est la période que je connais le mien, que je dois vous avouer. Donc ce que je sais un petit peu, c'est assez rapidement une volonté d'améliorer l'armée voltaïque, qui était dirigée donc par, comme je vous l'ai dit, par des anciens adjudants qui n'avaient pas une bonne notion de ce que pouvait être une armée moderne, alors qu'eux avaient vécu une formation de meilleur niveau. Et aussi la rencontre avec cette expérience avec la campagne voltaïque et l'état de désagrégation de l'armée, de désorganisation, etc., la corruption des militaires. Donc assez rapidement il organise un petit peu cette nouvelle génération de jeunes officiers en formation, et aussi il mène des expériences d'éducation des soldats qu'il dirige, notamment il arrive à obtenir la création d'une élite d'un bataillon de parachutistes à qui il fait beaucoup de leçons de morale, et en tout cas il leur apprend à gérer leur argent, à avoir un comportement plus moral avec les jeunes filles qu'il côtoie, etc., à se créer des comptes épargne par exemple, des choses comme ça, mais aussi toujours des anecdotes rapportées, il va une fois voir le président du pays pour lui dire qu'il veut une pompe à eau pour la ville d'où il vient, parce que c'est pas possible de continuer dans des conditions pareilles. Pompe sais plus si c'est une pompe à eau, je crois que c'est une pompe à eau, et il obtient donc effectivement sa pompe à eau, et dans cette activité, donc il commence à côtoyer, probablement à retrouver tous ceux qui étaient avec lui au PMK en troisième, hein. Et donc il y a une espèce d'organisation petit à petit des officiers en formation, et il y a l'épisode de la guerre du Mali aussi, où qui doit être un peu que je connais mal aussi, hein, qui lui a fait un effet tragique, puisque il a perdu, je crois, un vieux monsieur qui l'avait guidé, mais aussi il se rend compte encore une fois de la désorganisation de l'armée. C'est là-bas qu'il semble-t-il il rencontre Blaise Compaoré, avec qui il a une première discussion, qui deviendra donc le président actuel. Et donc et aussi ils sont probablement une horreur de la guerre, hein, puisque c'est la première fois qu'il une horreur de la guerre, c'est un peu complexe, parce que c'est quand même un militaire qui aime ça, mais semble-t-il une expérience un peu difficile, quoi, de la guerre dans des conditions difficiles pour des bouts de terrain. Je pense que c'est surtout le côté dérisoire de cette bataille qui...
Une sorte de guerre fratricide avec le Mali, un peu, voilà, absurde, quoi. Hein.
Voilà, pour une bande de terre qui est censée avoir... qui est censé abriter des richesses.
Il en ressort avec de la reconnaissance pour les opérations qu'il a menées, mais ça ne l'empêche pas de dire du coup que c'était une guerre inutile.
Absolument. Ouais. Reconnaissance, oui, donc on raconte qu'il est rentré, alors bon, tout ça je mets, c'est écrit dans un livre, hein, donc je pense que ça y est, un frais d'arrêter. On raconte qu'il s'est fait remarquer pour un exploit militaire à cette époque-là. Mmh. C'est la première fois, disons, que son nom sort du cercle de ses anciens collègues du PMK pour sortir un peu de l'armée, quoi.
Mais donc on a une génération là de militaires lettrés, avec Sankara qui sort un peu du lot, et on arrive au début des années 80 où il y a un changement de régime. Il y en a eu beaucoup en Haute-Volta. C'est un pays qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de mouvements sociaux, qui a beaucoup de syndicats, et il va être appelé en janvier 83 à devenir le premier ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo, mais ce qui ne lui plaît pas forcément.
Alors en fait c'est pas tout à fait comme ça,
ouais.
Mais bon, il faut reprendre un petit peu quand même, c'est-à-dire que bon, là je me suis arrêté, mais il faut continuer jusqu'aux années 80 par le fait qu'il y a une grande curiosité politique, et pas seulement d'ailleurs pour la politique, pour toute une série de choses, mais et donc il y a cette volonté d'aller à la rencontre des jeunes qui rentrent des universités soit de France, soit souvent de Dakar, et qui ont vécu mai 68 et qui importent au Burkina Faso, on va dire, les idées révolutionnaires teintées de marxisme-léninisme. Et donc il est assez attiré par ça et par toutes les discussions des différentes chapelles. Je ne sais pas si vous avez l'âge d'avoir connu le lendemain de mai 68, mais il y avait les querelles sur les textes de Lénine, etc. Donc il est relativement intéressé par ça, même s'il ne perd jamais son côté pratique. Et donc il côtoie donc des gens qui vont devenir des dirigeants révolutionnaires, en particulier on va dire des gens comme Valère Sommet qui lui est dirigeant d'une organisation clandestine, et aussi des gens comme Philippe Ouédraogo, Adama Touré qui était son enseignant, et d'autres, des dirigeants syndicalistes. Et en fait dans cette période il y a la bataille au sein de la gauche africaine pour que les marxistes prennent le dessus sur le courant de Kizerbo, qui est plutôt lié à l'international socialiste. Et ce qu'il faut rajouter avant de passer à la période pré-révolutionnaire, c'est que tous ces gens-là rentrent dans les syndicats, et leur premier objectif c'est d'en prendre la direction. Ce qui fait que les syndicats vont avoir de façon indirecte un rôle politique, c'est-à-dire que les organisations d'extrême gauche commencent par prendre les directions syndicales et leur donnent des orientations beaucoup plus combatives qu'elles n'avaient un petit peu auparavant. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc il y a une crise qui se développe pour arriver au début des années 80. C'est qu'il y a une crise qui se développe dans tous les domaines, hein, économie, de corruption, de gâchis, etc., de déficience de l'État. Et ce qui fait le lit de ce qui va se passer un peu plus tard, sachant que tous les partis officiels, il faut souligner que le Burkina est un des, la Haute-Volta alors, est un des seuls pays à avoir eu des élections avec deux tours, hein, avec un deuxième tour, puisqu'il y avait, je crois que c'est en 74, et donc il y a un débat politique à l'Assemblée nationale qui est rejeté donc par les révolutionnaires comme étant du parlementarisme, mais il y avait en tout cas une certaine liberté politique, et ces organisations d'extrême gauche avaient une organisation clandestine, mais aussi, je pense surtout à la LIPAD, Ligue Patriotique pour le Développement, qui a fait beaucoup de travail, elle avait pignon sur rue, ne se présentant pas aux élections, et qui donc a développé, on va dire, un discours anti, toujours pour simplifier, un discours anti-impérialiste. Et ce sont ces gens-là qui vont côtoyer Thomas Sankara jusqu'à la prise du pouvoir le 4 août 1983. Donc il devient d'abord, il y a un premier coup d'État où, enfin il y en a plusieurs, mais on va aller assez rapidement, hein. Il y a un premier coup d'État en novembre 82 qui met à bas un régime militaire précédent. Et à ce moment-là, il y a une lutte entre cette même génération de militaires, la génération de Sankara, sachant que parmi cette génération, donc on commence par évacuer les anciens militaires pour corruption, etc., et pour déficience et pour méconnaissance en fait de ce que c'est qu'une armée moderne. Mais il reste un conflit politique entre une couche de l'armée qui est de droite et une couche de l'armée qui est de gauche autour de Thomas Sankara. Et c'est ce qui va faire un peu la vie politique jusqu'au 1er août 83. Donc il y a d'abord un combat au sein de la direction de ça s'appelle le comité SCSP, comité de salut public ou quelque chose, je ne sais plus si salut public, CSP 1 et 2. Donc le combat politique interne va faire que Thomas Sankara va être nommé premier ministre, je pense que ça doit être en février 83, à peu près à cette période-là. Et là le conflit va être public, puisque donc c'est effectivement Jean-Baptiste Ouédraogo qui est président de la République, et donc il va y avoir un conflit politique public au cours de meetings où il va y avoir un clivage très visible entre Thomas Sankara qui développe un discours révolutionnaire et Jean-Baptiste Ouédraogo qui paraît un peu fade et qui manque un peu de stature politique. Et c'est donc tout ce combat politique qu'il va y avoir à cette époque qui va faire que Sankara est d'abord arrêté en mai 83. Des manifestations sont organisées donc par les organisations politiques qu'il côtoie, dont je vous ai parlé. Ce sont essentiellement des jeunes qui vont manifester, et il va y avoir ensuite, à partir du moment où il a arrêté, il va être mis en résidence surveillée, et il va organiser avec Blaise Compaoré, qui a pris sa place au bataillon de parachutistes de Pau, et en concertation avec les organisations civiles qu'il incite de s'unir, ils vont organiser la prise de pouvoir du 4 août 1983. On est obligé d'aller résumer, mais bon, il faut.
Et donc au 4 août 83, donc se commence la révolution en Haute-Volta avec le Conseil national de la Révolution qui compte 4 personnes, Sankara, Blaise Compaoré,
le Conseil national, là c'est ce que les gens appelaient les 4 dirigeants historiques de la Révolution, mais en fait le Conseil national de la Révolution compte beaucoup plus de personnes que ça, y compris quelques civils. C'est-à-dire que le Conseil national de la Révolution n'a pas eu de structure, ce qui a créé des critiques internes, n'a pas eu au départ une véritable structure, ce qui faisait que la composition n'a jamais été officiellement connue. Mais en tout cas, il y a ces 4 militaires que vous avez donnés, donc qui sont Lingani, Henri Zongo, Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Donc c'est eux qu'on considère comme les 4 dirigeants de la Révolution. Mais il y a aussi d'autres militaires, évidemment, qui ont d'autres militaires qui participent à la direction, et des civils qui se plaindront justement d'être un peu noyés au départ parmi les militaires, alors qu'ils avaient joué un rôle important, notamment dans la période qui a permis la prise de pouvoir.
Et alors très vite après cette prise de pouvoir, justement, il y a des actes, tout un tas de choses qui sont mises en place. On peut parler de certains, je sais pas des détails, mais de certains faits comme les fameuses R5, le changement donc de statut de tous ces dirigeants qui passent de la Mercedes à la R5, des salaires qui sont baissés, etc. Des mesures très concrètes.
Ouais.
Et on voulait vous faire réagir sur une de ces mesures. Alors c'était une interview de Jean-Philippe Rapp où il le faisait parler de la fermeture des discothèques.
Ouais.
Alors on va écouter ça dure juste 2 minutes.
Allez-y.
Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet à un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie. Le gratin qui va pour s'adonner à ses plaisirs et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois simple le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans en Volta. Une bouteille, une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gaie et toujours souriante. Mais nous voulons que les nightclubs se transforment en des clubs, si vous voulez, en tout cas des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces endroits-là des repères. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des nightclubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA, la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, elle coûte 1500 francs, quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, voyez-vous, un prix qui volontairement écarte le peuple. Et sur ces balles populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie.
Vous y allez vous-même ?
J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur.
Voilà, donc ça peut paraître un peu anecdotique et pourtant il dit beaucoup de choses dans ce petit extrait. Il parle déjà des sacrifices, il parle de cette discrimination monétaire avec l'exemple frappant, effectivement, de 50 francs contre 1500 francs. Il parle de beaucoup de choses et il termine avec cette phrase « J'y vais en tant que musicien ». Donc, je trouve intéressant ce passage.
Alors en fait, on y trouve dans cette anecdote plusieurs choses de Thomas Sankara. Vous y voyez son côté moral, puisqu'il parle de dépravation dans les boîtes de nuit.
Ouais.
Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais il a toujours un côté moral assez fort. On en parlera si vous voulez. Il y a aussi une vision de ce que sont les classes sociales, qui sont évidemment issues de sa culture marxiste assez importante. Sur ce que c'est que la petite bourgeoisie. Non, il dit pas ce que c'est que la petite bourgeoisie, mais il essaie de rendre compte de sa façon de se comporter en tant que un peu en tant que classe sociale. Hein. Et puis bon, après il y a son côté que les gens appellent populiste, hein, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire une référence toujours au fait que maintenant c'est le peuple qui doit diriger le pays et c'est la culture populaire qui doit prendre le dessus sur tout le reste. Alors je vais juste souligner une petite chose, c'est que bon, les nightclubs entre guillemets, il y en avait très peu à ce moment-là par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et moi, de mémoire, parce que j'ai été là-bas, en fait, ils n'ont pas été supprimés, ils ont été simplement transformés transformés, c'est-à-dire qu'ils voulaient ouvrir, ils étaient transformés en Val Populaire. Et je crois bien avoir été une fois dans un de ceux-là où c'était une boîte, elle n'avait pas changé l'intérieur, c'était encore une boîte de nuit, mais simplement l'accès était beaucoup moins cher que qu'auparavant. Ce que je voudrais souligner surtout aussi, c'est le côté pédagogique de Thomas Sankara, qui est quelque chose d'assez moins connu. Il y a deux volets. Il y a le côté pédagogique dans le sens de la communication, c'est-à-dire les symboles forts. Hein. Il y a toute une stratégie qui consiste à démystifier l'État et aussi la fonction des uns et des autres. Et là, il y a un peu cette stratégie qui consiste à faire la leçon à ce qu'il appelle la petite bourgeoisie, en leur disant que ça a changé et que maintenant il faut plutôt côtoyer le reste de la population plutôt que rester entre vous. Mais il y a des aspects, bon, vous avez souligné la question des R5 qui est pas très importante financièrement, mais qui est aussi très symbolique sur le fait que on est un pays pauvre, nos ministres n'ont pas forcément affiché un train de vie plus important que tout le monde, et donc on leur donne des R5, etc. Donc des aspects, ça a une induction financière évidemment, de même que la baisse des salaires, mais il y a aussi beaucoup un aspect de démystification de l'État, etc. Et il y a donc dans cet aspect pédagogique des choses qui sont moins connues, c'est que le début de la Révolution a commencé par quelque chose qui s'appelait le plan populaire de développement, où en fait l'ensemble de la population dans tous les endroits du pays étaient amenés à se réunir et à décider de se fixer des objectifs à atteindre assez rapidement, se fixer des objectifs de choses à construire, hein, sociaux, etc., mais aussi de se fixer les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire, l'aspect pédagogique, c'est, bon voilà, on commence par faire un peu l'inventaire de besoins, et maintenant, avant de commencer à aller demander de l'argent à l'extérieur, qu'est-ce que nous, on peut faire nous-mêmes ? Et l'État... Et donc il y a toute une discussion dans tout le pays, et l'État a financé quelques-uns des objectifs qui sont sortis de cette intense période de discussion. Mais disons, les objectifs, c'était des choses assez accessibles. C'était par exemple le fait, je donne l'exemple parce que je me rappelle, c'était le fait de construire des terrains de football. Alors sachant qu'un terrain de football au Burkina, c'est pas la même chose qu'ici, ou en tout cas dans un village. Et en fait, on amenait les gens à travailler eux-mêmes pour un objectif commun. Il s'agissait simplement d'égaliser un peu le terrain, de le mesurer tous ensemble, d'enlever un peu l'herbe, etc., de l'égaliser, d'enlever les cailloux et de mettre des poteaux. Et c'était un objectif, vous voyez, qu'il s'agissait de montrer qu'on n'a pas besoin de demander à l'extérieur. Et après, donc, ça a entraîné un certain dynamisme. Bon, il y a eu des GSEC, etc., évidemment, mais ça a entraîné un certain dynamisme. Et on connaît mieux, par exemple, le fait que dans de nombreux endroits, les agriculteurs ont construit des retenues d'eau un peu partout, puisque l'eau est un des problèmes numéro un de l'agriculture burkinabé. Donc, vous voyez, cet aspect pédagogique qui mélange le symbolique, la communication, c'est un très grand communicateur, mais aussi imprégner une mentalité à la population et lui donner confiance, en fait. Parce que l'idée, évidemment, c'est de créer une dynamique de façon à ce que les gens se rendent compte que leur travail leur est utile et que cette dynamique se perpétue sur des choses plus importantes.
Et on a l'impression, parce que ce que nous montre aussi cet exemple-là, c'est que c'est une révolution qui va passer partout, et dans un pays où il n'y a pas effectivement ni de richesse en sous-sol, ni une industrie déjà établie, et la richesse de la haute volta à l'époque, qui deviendra bientôt le Burkina Faso, c'est le peuple. En tout cas, c'est là-dessus que s'appuie Thomas Sankara et cette révolution, et ils vont changer la justice. Donc on voit des tribunaux populaires de la révolution qui s'installent aussi, une réforme agraire. Et tout ça va être mené toujours sous cette même façon de mobilisation de l'ensemble de la population.
Oui, absolument. C'est vous allez dans le même sens. Les tribunaux populaires sont... on connaît les tribunaux populaires parce que c'est les tribunaux nationaux où on a jugé les grandes autorités du régime précédent. Mais il y a eu une espèce d'échelle des tribunaux, en fait, puisqu'il y a eu aussi des tribunaux locaux. locaux et des tribunaux départementaux selon la gravité de la charge, en fait, de l'accusation, en fait. Et donc, plus on montait à un niveau et plus il y avait l'intervention de juges de métier. Toujours aspect symbolique, hein, c'est-à-dire que dans les tribunaux nationaux, les gens accusés n'avaient pas le droit d'avoir des avocats, et c'est accompagné de toute une rhétorique sur le fait que la justice emploie plein d'artifices qui ne profitent que aux gens qui sont riches, ce sont toujours les pauvres qui se font avoir avec ce système judiciaire, il faut absolument un avocat, etc. Bon, on laisse les gens évidemment réfléchir là-dessus. Bon, nous, on connaît un peu notre dérive judiciaire, hein, même si on a une justice qui fonctionne difficilement faute de moyens, mais on est confronté souvent à ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il fallait supprimer les avocats ou pas? Bon, des gens pensent que non, mais on était beaucoup dans l'aspect symbolique, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres endroits où on était dans la vengeance et ça se terminait par de nombreux fusillés, là, on était plutôt dans un aspect pédagogique, d'explication d'un système, de démystification du système, et on obligeait, en fait, les gens qui avaient détourné l'argent à rendre l'argent qu'ils avaient détourné. On n'était pas dans la vengeance. Et ils étaient évidemment emprisonnés quelque temps, mais on n'était pas du tout on est toujours dans un aspect pédagogique, en fait.
Et d'ailleurs, il me semble que les séances étaient retransmises à la radio même.
Ouais, ouais.
Et que des cassettes ont circulé sur les marchés.
Ouais, on pouvait appeler quelqu'un, comme tout le monde écoutait la radio, hein, on pouvait appeler quelqu'un à la radio, quelqu'un pouvait être amené à venir, on l'appelait par la radio, à venir témoigner pendant le... Ça se faisait à la Maison du Peuple, hein. C'est une grande salle qui existe toujours à Ouagadougou.
Et se monte aussi pour diffuser ces idées, pour faire cette pédagogie, des comités de défense de la Révolution un peu partout. Est-ce que vous faites quelques peintures de ces CDR dans votre livre? Est-ce que vous pouvez en parler un peu de justement comment ça se met en place un peu partout, ces comités de défense de la Révolution?
Alors en fait, ça s'appuie dès le lendemain de la Révolution, Thomas Sankara appelle à mettre en place les comités de défense de la Révolution. Et donc ça s'appuie à certains endroits sur des militants aguerris, mais il faut aussi comprendre que la révolution est l'œuvre d'une couche infime de la société. On va dire c'est un petit peu cette petite bourgeoisie qui n'est pas la petite bourgeoisie commerçante, mais plutôt celle qui est intellectuelle et celle qui a pris la direction des syndicats, sachant qu'il y avait assez peu d'ouvriers dans ce pays. Hein. Donc les comités de défense de la révolution sont mis en place comme ça de façon volontariste, et évidemment les gens qui en prennent la direction ne sont pas forcément les militants les plus aguerris, et il y a évidemment ce qu'on appelle les opportunistes qui sentent le vent tourner et qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant mais qui essayent d'avoir des postes. Donc c'est ça qui crée les difficultés de ces comités de défense de la révolution qui sont beaucoup décriés parce que effectivement la façon dont ça s'est passé montre leurs limites, mais qui en même temps ont aussi pas mal de succès, notamment dans l'organisation d'une bonne partie de la vie sociale, hein, puisque bon, c'est eux aussi qui mettaient en place ces tribunaux populaires. Mais il y a la question de la sécurité, on viendra après parce que c'est le côté le plus désigné, le plus décrié, on va dire. Mais il y a toute une série de questions comme la prise en charge des questions sanitaires dans le quartier, par exemple nettoyer les égouts, construire des écoles, etc., permettre à des gens de se former sur des métiers, enfin les CDR, et il y a la formation politique, hein, dans un pays où on a parlé des étudiants qui revenaient de leurs études à l'étranger, mais il y avait finalement une couche pas très importante de la population qui avait une formation politique, puisque pour les gens là-bas, la vie politique, c'est les gens qui sont au-dessus là-bas, qui n'en ont pas accès, qui la faisaient, et eux, bon, ils regardaient ça de loin. Donc là, il s'agissait dans l'idéologie et dans l'objectif de la révolution de rendre ce peuple politisé. Donc il y a aussi tout le volet formation politique avec des veillées, débats. Donc ils ont donc un aspect extrêmement important dans l'ensemble de l'activité sociale. Ils ont ce rôle d'être le pouvoir populaire et donc ils participent aussi à l'élaboration du plan, par exemple. Et il y a eu le plan qui est décidé une fois par an, le budget, etc. Et il y a eu des séances de délégués de CDR qui se réunissaient, qui représentaient les gays de tout le pays, qui se réunissaient toute la nuit pour voter des mesures difficiles à accepter, comme celle des baisses de salaire, etc. Donc il y avait des discussions, vous imaginez, donc évidemment c'est plein de contradictions, il y a des endroits où ça passe bien, il y a des endroits où on fait que répéter ce qu'on te dit de répéter, donc c'est très contradictoire, mais il y avait quelque chose qui se passait en tout cas, et qui a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Et après, évidemment, il y avait l'aspect milice, entre guillemets, puisque ça n'a jamais été un rôle qu'on leur a donné, mais ils avaient comme rôle d'assurer la sécurité de la Révolution, donc il n'y avait pas forcément énormément de volontaires politisés qui étaient prêts à passer leur nuit et leur journée dans les permanences CDR, donc c'était souvent des jeunes désœuvrés qui, entre guillemets, hein, qui jouaient donc ce rôle de qui disposaient des armes et dans les CDR et qui pouvaient parfois être manipulés pour faire des exactions ou des règlements de politique ou de la justice un petit peu expéditive. Donc il y a tous les il faut voir ces CDR dans un aspect plutôt contradictoire que de dire c'est tout très bien ou tout très négatif, quoi. C'est une révolution, donc c'est plein de contradictions et voilà, il faut voir les choses dans leur mouvement, dans leurs contradictions. Il y a des choses qui se passaient bien, d'autres qui se passaient pas bien, etc. C'est un peu compliqué, quoi, à sentir.
Il était le premier d'ailleurs à reconnaître des erreurs, des échecs et à ne pas chanter.
Absolument. Voilà. Les critiques les plus fortes de la Révolution, c'est lui qui les fait dans les conférences nationales des CDR. Donc il en a parfaitement conscience. Mais il en a parfaitement conscience et il appelle évidemment les CDR. Bon, alors après, je sais pas combien de temps il reste, mais bon, on verra que vers la fin de la Révolution, il prend conscience d'un certain nombre de difficultés et il se dit, il faut qu'on améliore tout ça, y compris, bon, le discours de la deuxième conférence nationale des CDR que j'espère on aura bientôt et qu'on mettra bientôt, qu'on rendra bientôt disponible, est un discours extrêmement important de ce point de vue-là. Parce que c'est lui qui met à plat l'ensemble de tous les problèmes des CDR.
Mais en tout cas, donc, il fonctionne, cette révolution, elle fonctionne par campagne. Il y a vraiment des gestes forts, notamment, il y a des discours de Sankara sur les femmes qui sont très importants.
Ouais,
donc,
ouais.
Il va organiser une journée du marché où c'est les hommes qui doivent aller faire le marché. Donc, on voit ce que ça peut bousculer aussi d'habitude et on a l'impression que beaucoup de choses fonctionnaient comme ça. Il y a aussi tout le travail autour de l'habit traditionnel. D'essayer de créer une industrie burkinabaise pour les Burkinabés et les journées du sport, on a vraiment l'impression que cette révolution a toujours tenté de mettre le peuple en marche, quoi, d'essayer que ça soit au quotidien qu'on construise un pays différent.
Alors justement, à propos des femmes, c'est important de parler des deux choses, de comparer cet aspect journée symbolique du marché et l'industrie cotonnière, parce que on a sur la question des femmes deux choses tout à fait différentes. La question de la journée du marché des hommes au marché, ça voulait dire que c'était les hommes qui pour une fois devaient aller faire les courses. C'est un aspect symbolique qui s'adresse aux mentalités des gens, en fait, hein. Et aussi, bon, l'explication c'était aussi que les hommes ne savent pas. Bon, souvent, les femmes doivent demander de l'argent aux hommes pour faire les courses, etc. Et souvent, l'homme rechigne en disant « tu me demandes trop », etc. C'est pour qu'ils aient une idée des prix. Il y a eu là-dessus une volonté de faire un salaire vital, c'est-à-dire qui consistait à réserver une partie du salaire de l'homme pour le donner à la femme, qui a été rejeté, en fait, hein, après des discussions. Ça, c'est pour dire aussi l'aspect démocratique, il faut pas trop le négliger, c'est-à-dire il y a eu des réformes qui ont été repoussées. Il y a cette réforme là de salaire vital et il y a aussi une réforme de l'éducation très radicale, hein, qui consistait à mettre les gens très très vite dans la formation d'un métier, qui ont été repoussées. Donc pour revenir donc à la question des femmes, il y a donc cette journée au marché qui est très symbolique, et la question de l'industrie cotonnière et des habits, en fait, hein, présentée comme ça, n'a pas visiblement de retombées sur la vie des femmes, mais qui dans la réalité en a eu beaucoup. Elle en a eu beaucoup, pourquoi ? Parce que en fait, il s'agissait évidemment de créer un marché national à base de coton, qui était en fait à une écrasante majorité vendu brut ou à peine transformé, donc il s'agissait de s'appuyer là-dessus pour créer une industrie nationale. Comme vous avez dit tout à l'heure, la richesse de Burkina, c'est le peuple, mais c'est son agriculture, en fait, puisque tout le monde est agricole, et il y a une certaine quand même connaissance du pays, de l'agriculture. Donc nationale, donc ça passait par la création d'une chaîne, ce qu'on appelle une filière de production. Donc d'abord on augmente la production du coton, ensuite on cherche des investissements, c'est-à-dire au niveau des paysans, en leur donnant un prix garanti et qui les incite à le faire. Ensuite on essaye, et ça a été difficile, d'augmenter les capacités des usines cotonnières à l'intérieur du pays. Ensuite on oblige les fonctionnaires à porter un habit traditionnel qu'on appelle le fasso d'enfani, à le mettre deux fois par jour dans la semaine. Et ça crée donc effectivement ce marché national, et je me rappelle très bien, puisque moi j'ai été plusieurs fois pendant la Révolution, que ça avait créé du travail aux femmes. Puisque, alors que souvent les tisserands dans les villages, les tisserands traditionnels sont des hommes, on a vu beaucoup de femmes se mettre au tissage du coton avec des métiers à tisser traditionnels. Et moi je me rappelle très bien d'en avoir vu énormément dans beaucoup de cours, les femmes s'étaient mises à tisser, et c'était ça qui était en gros leur libération. C'est-à-dire que du coup elles avaient leur indépendance financière et elles dépendaient pas de l'homme pour un certain nombre de choses. Vous voyez comme il faut voir les choses de façon globale, et cette filière de production du coton est révélatrice des contradictions elles-mêmes d'une révolution, parce que qui dit marché national dit effectivement que ce marché existe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter la production nationale. Or les seuls qui sont prêts à acheter, c'est soit les gens qui sont très riches, ou justement la petite couche moyenne d'intellectuels, syndicalistes, c'est souvent des services, hein, l'administration, etc., les enseignants, quelques gens qui travaillent dans les bureaux, etc., les assurances. Donc, et c'est eux qui sont obligés en fait d'acheter ces habits pour les mettre. Bon, il y a tout évidemment une campagne politique pour les convaincre, mais ils rechignent dans la mesure où on trouve beaucoup d'habits pas chers à Ouagadougou, puisque on déverse des fripes qui sont censées, les gens donnent de l'argent pour l'aide humanitaire, et souvent ce sont des choses qui sont revendues très peu chères, donc on peut s'habiller avec des fripes pour pas cher du tout, et les habits de façon d'enfani étaient relativement onéreux. Donc on crée aussi une contradiction, dans la mesure où ce sont justement ceux qui sont un peu à l'origine de la révolution, la petite bourgeoisie salariée, que je simplifie un peu, qui va être obligée, elle, de mettre la main à la poche, et donc qui va avoir son niveau de vie, d'autant plus qu'on leur avait diminué leur salaire, qui va avoir son niveau de vie baissé durant la révolution. Ça, c'est les propres contradictions d'un pays très pauvre. Et donc c'est aussi à l'origine, ce sont ces contradictions qui sont à l'origine des difficultés qu'a connues la révolution, et d'un certain mécontentement qui se faisait jour, fomenté évidemment par ceux qui commençaient à contester le pouvoir de Thomas Sankara et va vouloir le renverser.
Ouais, ça commençait à traîner la patte un petit peu sur tous ces changements. Et il y a aussi l'opposition avec la chefferie traditionnelle, parce que de remettre en cause le pouvoir traditionnel, il s'oppose directement au chef, il me semble.
Oui, bon, bah ça c'est. Bon, ça a été un peu surévalué, mais il est clair que il avait un discours, il parlait de ça, il parlait des féodaux, etc. Et ça, c'est on peut pas avoir un discours unilatéral, puisque l'organisation sociale des différentes ethnies est extrêmement différente. Mais en tout cas, il a affronté un peu la chefferie aussi. Enfin, il a demandé notamment à l'empereur de payer son électricité, ce qui a créé un mécontentement parmi les Mossi, et Blaise Campaoré étant lui-même un Mossi, on commençait à lui dire qu'il n'a pas à être dirigé par un Silmi Mouaga, c'est comme ça qu'on appelle l'ethnie de Sankara, les Silmi Mossi, les Métis, voilà, et qu'il n'avait pas à se laisser diriger par, même si c'est pas un élément essentiel du conflit qu'il y a eu, c'est quand même, ça a joué son rôle.
Il est même d'ailleurs aboli tous les paiements et corvées obligatoires envers la chefferie, donc oui, c'était quand même quelque chose de fort.
Voilà. Absolument. Alors bon, si vous voulez, il faut faire la différence entre ce qui est dit être fait et ce qui se fait dans la réalité. Mmh. En tout cas, c'est vrai que, parce que si vous voulez, ça c'est Alors, je connais pas bien la structure sociale. Les usages, hein, réels, ça existe pas de façon généralisée. Et probablement si ça existe, c'est plutôt dans les campagnes. Et il faut comprendre que souvent, les descendants des familles de chefs étaient élus comme représentants des CDR. Donc, vous voyez un peu la marge qu'il y avait. Mais c'est sûr que la chefferie aussi n'a pas vécu avec enthousiasme cette révolution. Et aujourd'hui, par contre, elle est remise on lui donne un rôle politique, quoi.
Et du coup, sur la réforme agraire, justement, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de réticences à ce niveau-là, quoi, puisque la réforme agraire va imposer des réquisitions de terres et des autres distributions des terres qui impliquent les chefferies.
C'est une légende, ça c'est un peu... Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc la réforme agraire a été caricaturée. En fait, il s'agissait essentiellement de permettre à l'État de disposer des terres quand il voulait construire dans les villes, mais dans les villages, ça devait se traduire par la délimitation de 4 zones, hein, que sont une zone pour planter des arbres, une zone pour l'agriculture, une zone pour les animaux, et une zone, la quatrième, je me rappelle plus, enfin une quatrième zone. Et il y avait à cette époque-là pas vraiment de propriétaire des terres. Il y avait quelqu'un qui avait le rôle de la distribuer aux gens qui la demandaient, mais qui n'avait pas de titre de propriété. Donc cette réforme est mal connue parce qu'elle a pas été appliquée pendant la Révolution ou très peu. On en a reparlé beaucoup après, mais elle est assez caricaturée. Et son rôle, c'était... Bon, moi, je me rappelle un petit peu de ça. Ça n'a pas été d'aller prendre les terres et de les... Si ce n'est peut-être en ville, effectivement, quand on voulait étendre les villes, il fallait pas que le chef qui disposait de cette terre-là refuse. Donc là, ça s'est peut-être traduit par cette forme un peu coercitive, mais en fait, dans les villages, c'était... ça n'a pas été appliqué, hein, et ça a été même assez mal connu, bon, même s'il y a eu des aspects pédagogiques, mais l'objectif, c'était bien de délimiter des territoires réservés dans les villages. Et j'ai oublié la quatrième zone, c'était évidemment le village lui-même, les construire des maisons, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, rassemblement d'officiers communistes comme ROC, c'est un peu une légende qui s'est construite. Malheureusement, bon, moi qui suis ça de ces près, on voit des choses qui émergent sur Internet, on ne sait pas d'où, et tout le monde répète, et c'est comme le fait que le Burkina aurait atteint l'autosuffisance alimentaire. Après, bon, ça c'est Jean Ziegler qui dit ça dans le film de L'Homme Intègre. Et il faut que je le retrouve, mais je me rappelle bien avoir lu il n'y a pas très longtemps, hein, des discours de Sankara peu avant qu'il meure, où il explique qu'il parle encore qu'il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc il y avait effectivement un gros progrès de fait, mais il y a une part de légende qui se construit sur des... Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus. Donc si je peux me permettre d'insister pour que les gens, s'ils veulent acquérir des connaissances pas superficielles, c'est que outre les livres qui sont malheureusement un peu chers, il y a en tout cas le site thomassankara.net où on fait l'effort de donner les discours dans leur intégralité et beaucoup de choses qui permettent d'en savoir beaucoup plus et de façon approfondie sur cette révolution.
Ouais, tout à fait, parce que c'est vraiment une révolution qui a traversé de contradictions. Finalement, c'est 4 ans parce que Thomas Sankara est abattu et on va changer d'air à ce moment-là. Hein. Il y a quand même un gros changement à ce moment-là. Mais c'est quelque chose. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en tire des différentes lectures, de regarder. C'est au-delà de l'icône Sankara. C'est vraiment une expérience révolutionnaire dans les années 80, ce qui est quand même à saluer parce que le monde entier était sous la férule libérale. On se souvient de Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis. La France avait fait son tournant de la rigueur en 83 déjà. Hein, les utopies de 80 étaient bien enterrées. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui se développe. Et c'est vrai que le site thomassankara.net en donne une belle vue. Mais il y a vraiment des choses à apprendre du Burkina, quoi, de ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi.
Absolument. Donc je voudrais, avant d'expliquer pourquoi les orientations étaient très actuelles, juste dire dire quand j'ai parlé de pédagogique, c'est qu'il faut comprendre que Sankara avait une vision une vision de ce qu'il fallait faire, qu'on a essayé de développer tout au long de l'émission, mais il n'avait pas un plan préétabli, d'où un peu ce que vous avez dit, des idées qui sont lancées un peu partout et une expérimentation permanente entre l'idée qu'il lance, la réaction qu'il va y avoir, donc des idées qui sont tirées, d'autres qui sont avancées, des discussions, des contradictions, etc. Mais pour revenir à l'actualité de cette révolution, quels sont les deux problèmes de nos sociétés occidentales aujourd'hui? On est confronté à deux problèmes qui étaient peu mis en avant à cette époque-là. Quels sont nos deux problèmes? C'est la sauvegarde de la planète, c'est-à-dire l'écologie est devenue un problème politique de premier plan, ça ne l'était pas du tout à cette époque-là, sauf par René Dumont qui devait avoir 0,5% des révolutions. Et le deuxième problème, c'est la mainmise du pouvoir financier sur les économies. Or, Sankara, durant cette révolution, il a affronté ces problèmes. La réforme agraire avait aussi justement pour objectif de délimiter un territoire pour faire pousser des arbres. Il y avait tout un aspect de lutte contre la désertification du pays qu'on n'a pas développé, mais il y a eu en particulier ce qu'on appelle les trois luttes qui consistaient à inciter à planter des arbres et à supprimer les feux de brousse qui assèchent les terres, qui peuvent permettre à court terme de cultiver plus facilement, mais qui à long terme assèchent les terres. Et la divagation des animaux, c'est simplement dans un pays où les arbres sont rares, si on laisse les animaux se balader partout, ils vont vous manger les jeunes pousses des arbres et empêcher les arbres de se développer. Donc il y avait cet aspect-là, plus des projets aujourd'hui qui sont étonnamment repris, comme celui d'une bande verte dans le nord du Sahel, qui était un projet que Sankara voulait lancer. Et puis le deuxième aspect, c'est évidemment le pouvoir financier, qui sont le problème de nos sociétés aujourd'hui. Hein. Et donc on connaît le discours contre la dette qu'il a fait, c'est le plus connu simplement parce que c'est celui dont on a les images, hein, qui sont diffusées partout. Et donc il a affronté, il a parfaitement décrypté ce que c'est le problème de la dette en désignant les adversaires, et il a affronté le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, puisque une négociation a été engagée et qu'elle a chapeauté sur le fait que les objectifs du Fonds monétaire international n'étaient pas ceux du Burkina Faso révolutionnaire. Donc vous voyez cette actualité de Thomas Sankara aujourd'hui qui explique pourquoi sa renommée va par-delà, largement au-delà du Burkina Faso et au-delà de l'Afrique.
Et ben c'est pour ça que donc on entame la 15 jours sur Thomas Sankara et on va reparler de ces histoires de dette, hein, parce que le discours sur la dette repose plein de choses intéressantes qui concernent de plus en plus de pays de manière assez cruciale et critique. Et en tout cas, on vous remercie. On est arrivé là au bout de la période Sankara. Il va bientôt être assassiné et on va laisser ça pour une prochaine émission où on parlera de l'ère Campa. Donc on vous remercie ici beaucoup pour avoir donné à voir un tout petit bout là de cette révolution, et on invite vraiment tous les auditeurs auditrices à aller voir thomasankara.net où il y a là une masse d'informations assez incroyable, à la fois des discours, à la fois des entretiens, des films, de la musique, des textes, et il y a de quoi approfondir la connaissance sur cette période.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et bon courage pour la suite.
Merci. Au revoir.
Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici.
C'est un homme un peu dérangeant, président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, vous dites, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et moi, j'admire ces qualités qui sont grandes, mais tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de ma expérience. Alors, je l'encourage, mais pas trop.
Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes.
Proclamation. Le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin à ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la révolution d'août. Le Conseil national de la révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du FASO, secrétaire général national des comités de défense de la révolution et les commissaires politiques sont démis de leurs fonctions. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Front populaire, le camarade capitaine.
Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début. Pour la patrie, mais au finish c'est la mort qu'on nous a servi. En quête de routine, à qui profite le crime, à qui profite le temps. Va savoir, pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Chaque citoyen est responsable de ses actes, et nos responsables ne font pas exception. Même pas ceux qui nous gouvernent, surtout pas ceux qui nous rabattent les oreilles avec des formules démocratiques tropicalisées, adaptées pour la diversion. L'histoire est celle que nous méritons, mais on doit la vérité aux enfants de la nation. Le progrès, c'est ce pour quoi on se bat. L'honneur, si ce n'est pour ce à quoi on croit. Ce qui fait de nous des êtres sensibles, avec une larme qui tombe à chaque homicide. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Jette un œil à la ronde, une brochette de politiciens trapézistes qui rasent les murs, et pourtant qui résistent.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Voilà qu'on cherche des coupables qui n'existent plus. Ils sont intouchables, mais pas comme à Bombay. Eux peuvent bomber le torse et se payer une nouvelle virginité. Un casier blindé, pas comme le gilet que leurs victimes n'avaient pas porté. Un simulacre de procédure qui dure depuis mon adolescence. Fait grimper le prix de l'essence et danser le peuple, la panse vide. En fait, on n'en pense pas moins, c'est ça qui est con. Mais rien ne change par la pensée. Rien n'a déjà plus de sens quand les responsables incriminés sont à leur tour encensés. Hélas, un passé ça laisse des traces. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Pour moi, ce qui s'est passé, parce que, comme vous le savez, Thomas Sankara, c'est un ami. Mais j'aime aussi mon peuple, plus que tout. Et je dois reprocher à Thomas Sankara, bien sûr, d'avoir, par moments, méprisé justement les intérêts de ce peuple. Je lui reproche aussi d'avoir, à un moment donné, pensé que ma liquidation physique allait lui permettre de poursuivre. Lui, il considérait comme un objectif fondamental, à savoir asseoir son pouvoir personnel.
Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon.